l'accent mis sur la qualité est caractéristique du Japon. Et voilà, même si certaines industries au Japon ont disparu, comme la production de mémoires de masse ou la production de panneaux plats, qui ont pu aller à Taïwan, en Corée, en Chine, beaucoup des technologies de base et de matériaux essentiels pour ces produits sont fabriqués par des entreprises japonaises ou sous les brevets de ces entreprises.
Bienvenue sur Money Maze Curated Podcast. Nous avons créé cette chaîne secondaire pour mettre en avant une sélection d'entreprises innovantes, que ce soit dans le secteur de la finance ou d'autres horizons. Si vous visitez moneymazepodcast.com, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être au courant de la sortie des épisodes et accéder à une gamme de ressources pertinentes pour chaque invité. Si vous appréciez cet épisode, abonnez-vous à cette chaîne et laissez-nous un avis. En 1989, le Japon représentait 43% du marché boursier mondial. Les 8 plus grandes banques du monde étaient japonaises. La liste globale des 1000 plus grandes entreprises de Business Week montrait que 7 des 10 premières sociétés étaient japonaises, dirigées par NTT. Pourtant, en 1999, 10 ans plus tard, plus aucune entreprise japonaise ne figurait dans le top 10. C'était une bulle épique et ce fut un éclatement encore plus épique. Et 34 ans après ce record, le Japon est toujours la troisième plus grosse économie mondiale. C'est la plus grande nation créancière du monde, qui a la monnaie la plus sous-évaluée par rapport au pouvoir d'achat de toutes les grandes devises, et son marché boursier reste le deuxième plus grand marché boursier au monde. Et pourtant, pour dépasser son record précédent de 1989, il s'en rapproche, mais il a le ratio dette sur PIB le plus élevé de tous les pays du G7. Quel mélange intrigant, et aujourd'hui, à environ 6% de l'indice mondial, il commence à mieux performer, avec un vent favorable de réformes constructives. Un intérêt institutionnel s'éveille, c'est ainsi que je le décrirai. Aujourd'hui, nous avons ici deux messieurs très expérimentés.
Peter Tomaku, kyowa okane no mero no kono gensen ba iyokozo.
Yoroshiku onegaishimasu.
Yoroshiku onegaishimasu.
Peter Tasker et Mark Pearson, fondateurs d'Arcus Investment, bienvenue dans cette édition du podcast Money Maze. Si je devais paraphraser Mark Twain, les rumeurs de la mort de la gestion active ont été grandement exagérées, car vous, chez Arcus, avez démontré que des rendements à long terme sont possibles en termes de production d'un alpha actif éprouvé. Et j'espère que nous pourrons aujourd'hui développer une compréhension du climat d'investissement politique et économique japonais. Mais parlons d'abord de vous deux. Peter, du hasard de la vie, il s'avère que vous aviez quelques années d'avance sur moi à l'école. C'est la première fois que nous nous rencontrons en face à face. Et vous êtes tous les deux impliqués dans les affaires japonaises depuis les années 1980. Peter, vous êtes un commentateur reconnu et respecté du Japon. Vos publications sont régulièrement parues dans le Financial Times et le Wall Street Journal. Vous parlez couramment le japonais. Et pendant 5 années consécutives, vous avez été nommé numéro 1 en stratégie économique par le Nikkei. Mark, vous parlez également couramment le japonais. Vous avez obtenu votre diplôme d'économie à Emmanuel College. Vous vous êtes formé comme comptable. Chez Coopers & Lybrand, ce dont on ne parle plus vraiment aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr à qui ça appartient maintenant. Vous étiez gestionnaire de portefeuille japonais chez Kleinwort Benson et Longshow. Peu de gens ont cette expérience. Qu'est-ce qui vous a attiré au Japon?
Eh bien, pour moi, dans mon cas, il y avait un facteur de poussée et un facteur d'attraction. À l'époque, l'économie britannique était dans un état terrible et il n'y avait pas d'emploi. C'était donc le facteur de poussée. Je voulais aller à l'étranger. Et on commençait à voir des produits japonais dans nos maisons, sur les panneaux publicitaires. À ce moment-là, on ne connaissait rien du tout sur le Japon. Puis, une opportunité s'est présentée. J'ai pu m'y rendre. J'ai décidé d'apprendre un peu de japonais et de voir comment était la vie là-bas. Je pensais que ce serait une mutation de courte durée. Après ça, mon plan était de faire quelque chose au Royaume-Uni, mais ça ne s'est jamais produit. Je n'ai jamais été rappelé et les années ont passé. Des décennies plus tard, me voilà encore ici.
Et vous, Marc ?
L'amour m'a emmené au Japon. Lors de ma dernière année à Cambridge, j'ai rencontré une fille japonaise, j'en suis tombé amoureux et je suis allé lui rendre visite au Japon avec sa famille en 1981. Nous nous sommes mariés 2 ou 3 ans plus tard et nous avons fondé une famille. Par conséquent, j'ai cherché un moyen de poursuivre ma carrière au Japon pour pouvoir effectivement y vivre et que nous puissions y élever notre famille, afin de connaître les deux pays et les deux cultures. Et grâce à quelques rencontres très fortuites, j'ai pu rejoindre Kleinwort Benson et j'ai travaillé avec Peter dans son département de recherche à Tokyo dans les années 80.
Vous avez créé Arcus en 1998. Vous célébrez vos 25 ans. Pour résumer, qui êtes-vous? Où êtes-vous? Combien êtes-vous?
Nous nous sommes établis à Londres il y a 25 ans. Nous avons établi un bureau à Tokyo en 2004 et ensuite, nous avons établi un bureau à Kuala Lumpur il y a 3 ans. Donc, nous opérons à partir de ces 3 emplacements. Nous avons commencé en tant que spécialiste des actions japonaises et nous restons un spécialiste des actions japonaises aujourd'hui. Nous avons des équipes d'analystes et de gestionnaires de fonds dans les 3 emplacements. Nous avons donc 3 analystes à Tokyo. Nous avons une équipe de 4 personnes d'investissement à Londres et 2 à Kuala Lumpur. Au Japon, nous avons grosso modo 3 stratégies.
Des actifs totaux, environ 1,7 milliard.
C'est plutôt 2 milliards aujourd'hui.
Plutôt 2 milliards, d'accord. Et si je vous demandais à chacun de dire en une phrase quelle est, selon vous, la force d'Arcus, que diriez-vous, Peter ?
Eh bien, vous voyez, je pense que notre force est essentiellement d'être très, très fidèle à notre credo de valeur. Je dirais aussi que nous sommes une sorte d'organisation biculturelle. Je suis resté au Japon depuis la création de notre entreprise. Et Marc aussi, comme vous l'avez mentionné, parle japonais et nous avons beaucoup de japonais dans notre entreprise. C'est donc une sorte d'organisation biculturelle.
C'est peut-être la phrase la plus longue que j'ai entendue.
Je peux vous en donner plus si vous le voulez.
Marc, je vous laisse la parole.
Des personnes qui ont vu d'autres entreprises nous ont dit qu'on était relativement rigoureux. Donc, je pense que la cohérence est importante et aussi liée à la persévérance. Nous avons persévéré pendant 25 ans, ce qui n'a pas été facile. Mais ça me fait penser à d'autres choses. Si je peux ajouter encore une phrase.
Oh, bien sûr.
Et l'une d'entre elles, c'est qu'être un investisseur axé sur la valeur est, je pense, une profession assez misérable. Les entreprises qui ont été rejetées, négligées, méprisées par d'autres investisseurs, c'est la raison pour laquelle elles sont si bon marché. Donc, vous devez examiner les entreprises qui sont en difficulté, qui ont des problèmes. Donc, je pense qu'il y a un élément d'optimisme à associer à la persévérance. Et il faut leur faire confiance pour qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Bien sûr, nous faisons ça après avoir discuté avec eux, appris à connaître les entreprises, appris à connaître les managers, et après s'être décidé sur la question de savoir si ça va se réaliser ou non.
2 choses m'ont frappé. Premièrement, une qui est désormais largement connue, et corrigez-moi si je me trompe, mais la moitié des sujets se négocient en dessous de la valeur comptable. Et l'autre observation très intrigante était qu'environ 40% du marché boursier japonais ne bénéficie d'aucune couverture de courtier. Comment procédez-vous pour découvrir les noms sur lesquels vous souhaitez travailler ?
Nous mettons en place beaucoup de traitements de données, beaucoup de procédures de sélection et de modélisation multifactorielle. Donc c'est l'une des manières qu'on a d'identifier des opportunités. Donc ma journée commence par la réévaluation de tout le marché japonais, soit presque 4000 entreprises. Et chaque jour est un nouveau jour pour trouver de nouvelles opportunités. On commence par le travail quantitatif, puis moi et mes collègues passons à l'examen des entreprises individuelles depuis Londres, Tokyo et Kuala Lumpur. On entre dans les détails, on essaie de comprendre ces entreprises. Donc voilà la manière générale dont nous abordons l'investissement au Japon.
Donc vous avez écrit... Sans la présence de sous-évaluation significative, nous n'investirons pas. J'aimerais juste que vous m'expliquiez le processus de sélection, les idées. Quelles sont les étapes qui suivent ?
Nos portefeuilles sont toujours nettement moins chers que le marché global. Donc, par exemple, le PER actuel du Topix est probablement dans la fourchette des 13 à 15 points. Le prix sur la valeur comptable est probablement d'1,3, 1,4. Eh bien, notre portefeuille peut faire 9 fois, 8 fois ou même 7 fois les bénéfices et peut-être à 0,6, 0,7 sur le prix valeur comptable. Donc, l'ensemble du portefeuille est fortement décoté par rapport au marché global. Et pour qu'une nouvelle entreprise ou une nouvelle action entre dans notre portefeuille, elles doivent rivaliser avec le portefeuille existant. D'une certaine manière, elles doivent être encore moins chères. Donc, notre processus consiste à prendre continuellement des bénéfices dans les entreprises qui ont bien performé, qui ont connu une évaluation significative, et à réinvestir ces fonds dans des actions beaucoup moins chères. Et c'est ça notre gagne-pain, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Ça remonte à un concept de type Buffett. En détenant une action, vous possédez une petite partie d'une entreprise. Et lorsqu'on examine les petites parties de l'entreprise et qu'on les regroupe, on accumule une valeur fondamentale considérable au fil du temps.
Si je peux me permettre, ayant travaillé avec Marc pendant de nombreuses années, il y a aussi un élément psychologique. Les gens aiment faire partie du troupeau. Ils aiment ça, c'est plus sûr. De faire ce que tout le monde fait. De plus, si c'est une grande entreprise, même si quelque chose tourne mal, vous pouvez toujours dire « Eh bien, vous savez, c'est quand même une entreprise fabuleuse ». De cette manière, les investisseurs en croissance peuvent parler avec enthousiasme des types d'actions qu'ils apprécient. Et les gens se sentent subjugués. « Oh là, regarde cette entreprise, c'est formidable !» Eh bien, ce n'est pas ce qu'on fait. Et on n'a pas peur d'être le loup solitaire, à faire notre truc et porter nos jugements dans notre coin. Et vous voyez, c'est un endroit solitaire. Et les gens nous demandent « Pourquoi vous aimez cette entreprise ? Personne d'autre ne l'aime. »
Je suis fasciné parce qu'on sait que même si vous parlez tous les deux couramment le japonais et que vous avez vécu dans le pays, vous êtes des étrangers. Qu'espérez-vous accomplir lorsque vous allez dans ces entreprises ?
Il y a plusieurs décennies, les entreprises japonaises n'accueillaient pas les investisseurs et leur donnaient parfois des réponses évasives ou disaient parfois « non, on ne veut pas vous parler, pourquoi devrait-on vous parler ?» Ça a totalement changé aujourd'hui et les entreprises, à quelques exceptions près, sont très heureuses de parler aux investisseurs et se préoccupent de ce qu'on pense et de ce que les investisseurs pensent.
Compris. Alors, Marc.
Tout d'abord, je ne voudrais pas trop différencier les entreprises japonaises du reste des entreprises dans le monde. En fin de compte, elles visent à peu près à la même chose. Elles visent à développer leur entreprise. Elles visent à être rentables, elles visent à gagner de l'argent. Ça aide de parler japonais, ça aide de connaître le Japon. Je pense que l'une des choses que Peter et moi avons réalisées au fil des décennies, c'est de connaître de nombreux aspects du Japon. Vous savez, Peter a écrit des romans et des livres sur le Japon et il est très au fait de certains aspects de la culture japonaise, comme le cinéma et la littérature. Et dans mon cas, je me suis intéressé à des choses comme le jeu d'échecs japonais, la musique japonaise. J'ai appris le shakuhachi, la poterie japonaise et la photographie japonaise. Nous avons tous deux acquis une vaste et large exposition à de nombreux aspects de la culture japonaise. Et je pense que ça aide effectivement pour se rapprocher des Japonais dans leurs entreprises, parce que nous ne venons pas vraiment de l'extérieur. Je veux dire, on se sent totalement chez nous au Japon.
Bien. Passons à l'une des observations qui a été faite et qui est intrigante. Les entreprises japonaises sont, pour le moins, préoccupées par la qualité du résultat. C'est l'une de leurs plus hautes priorités. Donc, s'ils étaient Daikin, ils préféreraient fabriquer le meilleur système de climatisation du monde plutôt que de maximiser le profit.
Si on regarde la durabilité d'une entreprise, il est assez intéressant de noter que la plupart des entreprises ayant la plus longue histoire au monde, sont japonaises. Et je dirais que dans les années 80 et 90, beaucoup d'entre elles n'accordaient pas assez d'attention à la rentabilité. Et en conséquence, elles se sont concentrées sur les parts de marché, ce qui les a laissées dans une situation difficile lorsque la demande a chuté dans les années 1990. Je pense donc qu'elles sont maintenant beaucoup plus conscientes des bénéfices qu'à l'époque où l'économie était en pleine expansion. Mais vous voyez néanmoins il y a cet élément de durabilité qui est, je pense, une approche à plus long terme qui a vraiment du sens.
L'accent mis sur la qualité est caractéristique du Japon. Les Japonais aiment faire les choses à la perfection et avec soin. Et cela se reflète aussi dans la société. Le Japon n'a effectivement pas beaucoup des problèmes sociaux de certains pays occidentaux. Et tout cela malgré cette longue période, comme vous l'avez décrite, une longue récession, une longue stagnation économique et une déflation. Dans l'ensemble, la société japonaise est restée un endroit remarquablement agréable et paisible, avec une bonne qualité de vie. Je vous ai montré à quel point l'immobilier est bon marché en termes réels. C'est abordable au Japon. Je veux dire, ce n'est pas vraiment abordable dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et je pense que cette attention aux détails et ce souci de la qualité sont une force essentielle. Et même si certaines industries au Japon ont disparu, comme la production de mémoires de masse ou la production de panneaux plats, qui ont pu aller à Taïwan, en Corée ou en Chine, beaucoup des technologies de base et de matériaux essentiels pour ces produits sont fabriquées par des entreprises japonaises ou sous les brevets de ces entreprises. Pendant longtemps, cette course à la part de marché a réduit les marges, entraînant un excès d'investissement dans les années 80. Mais une partie de l'ajustement massif qui a eu lieu au cours des 30 dernières années a été de se concentrer sur l'efficacité, un énorme remboursement de la dette d'entreprise. Ainsi, le secteur des entreprises est maintenant en trésorerie nette et porte une attention accrue sur la rentabilité. Donc, le profit s'est vraiment amélioré de manière significative depuis environ 2010-2012. Et il s'est amélioré tant au niveau opérationnel qu'au niveau non opérationnel. Je pense que les gens ont tendance à négliger l'importance des améliorations réalisées par les entreprises japonaises au niveau non opérationnel, ce qui est très significatif. Même si l'amélioration a été réalisée, on ne pense pas qu'elle soit arrivée à son terme. Les marges atteignent des niveaux respectables seulement depuis quelques temps. Et nous ne sommes pas au niveau élevé qui suggérerait qu'elle ne pourrait pas être viable, mais plutôt au niveau où les améliorations en cours peuvent être prolongées.
Puisqu'on réfléchit aux opportunités qui se présentent, vous avez un excellent parcours depuis bien des années. Vos propres noms qui ont été revalorisés de manière significative, comme Sony Hitachi, et avec la perspective d'un yen plus fort, mais également de cette bifurcation en termes de moitié de TOPIX qui se négocie en dessous de la valeur comptable. En même temps que je relis vos documents, je me demande si vous avez déjà mentionné le paysage immobilier et le réajustement des prix là-bas. J'ai été frappé par l'une de vos entreprises, Mitsubishi Real Estate. J'ai été dans ce secteur assez longtemps pour savoir que je l'ai possédé à divers moments du cycle. Et maintenant, à la moitié de la valeur comptable, il est à nouveau en vedette. Pouvez-vous nous donner un aperçu de pourquoi ça arrive maintenant ?
On préfère souvent investir dans des entreprises où les résultats potentiels penchent en notre faveur, c'est-à-dire là où le risque de perte est très faible et le potentiel de gain est très élevé. Si on regarde Mitsubishi Estate ces dernières années, le prix valeur comptable, vous savez, le prix qu'on paye pour l'entreprise était tombé à 40 ou 50 centimes sur la valeur du dollar de leur capital, autrement dit, leur portefeuille. Et oui, quand on regarde le bilan de l'entreprise, elle a accumulé de manière très impressionnante, très constante et régulière, cette valeur sous-jacente de l'actif ainsi que sa rentabilité. Donc, en premier lieu, les négociations se faisaient à des valorisations extrêmement basses, incroyablement bon marché en termes absolus. Et puis, avec le recul d'aujourd'hui, si on se rappelle le milieu des années 2000, 2004, 2005, c'est la dernière fois où le Japon a eu un marché soutenu par des attentes de relance et où les entreprises immobilières ont été très performantes. Et il suffit seulement de revenir une décennie en arrière pour voir Mitsubishi Estate et ses pairs comme Mitsui ou Sumitomo Realty négocier une fois et demie à deux fois la valeur de leurs actifs. Donc on a estimé que c'était une situation où le risque de perte était extrêmement faible. C'est presque inconcevable pour la société immobilière de la plus haute qualité au Japon de négocier à un prix bien inférieur à 40 ou 50 centimes par dollar avec un très bon bilan et de bons prospects. Bien sûr, La raison pour laquelle c'était bon marché, c'est que pendant la pandémie, tout le monde s'inquiétait de la hausse des taux de postes vacants et des préoccupations mondiales concernant l'immobilier, et les gens avaient en quelque sorte sous-estimé la force et la résilience de ces entreprises japonaises où les postes vacants ont un peu augmenté, mais seulement jusqu'à environ 5% avant de commencer à s'améliorer. Donc, les gens ont associé ces entreprises japonaises de très haute qualité à certaines entreprises immobilières mondiales de qualité plutôt médiocre.
Et lorsque cette dispersion dans la valorisation en termes de capitalisation boursière s'est produite, est-ce que votre portefeuille s'est orienté vers une capitalisation boursière médiane inférieure à ce qu'elle était il y a 2 ou 3 ans ?
Non, parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, on recycle continuellement le portefeuille. Donc, à mesure que les entreprises dans lesquelles on investit performent, elles atteignent une valorisation un peu plus élevée, elles tendent vers une valeur équitable, mais on a tendance à les vendre avant qu'elles n'atteignent cette valeur équitable. On vend souvent tôt, mais on investit également tôt. Donc, si on achète une entreprise à la moitié de la valeur comptable et qu'elle monte à une fois la valeur comptable, on a doublé notre somme d'argent, mais on va prendre cette valeur comptable et on va la réinvestir dans une autre entreprise à la moitié de sa valeur comptable. Et en gros, on vient de doubler la valeur fondamentale sous-jacente de nos parts. Donc, notre processus nous maintient constamment en mouvement, comme un requin, si vous voulez. Le requin ne peut jamais s'arrêter et on doit quand même continuer à avancer et à recycler notre portefeuille pour obtenir une meilleure valorisation en permanence.
D'après ce que vous m'avez dit, j'aurais tendance à penser qu'il est plus difficile de trouver les positions short. Comment peut-on explorer les positions short et quand est-ce que vous vous sentez intrigué ?
On a de vraies entreprises de chaque côté, les longues et les short. Au Japon, ce que l'on surveille de très près au fil du temps, c'est la dispersion des valorisations sur le marché. Alors, à quel point les actions très chères et les actions très bon marché sont éloignées l'une de l'autre ? Ce qu'on a remarqué, c'est que pendant la décennie de 2010 à 2020, cette dispersion a atteint des niveaux exceptionnellement élevés. Donc, ça signifiait que les actions chères, là où on trouve nos positions short, étaient très chères par rapport aux positions longues, qui était à une valorisation historiquement basse. Donc, historiquement, la dispersion était à un niveau extrêmement élevé. C'est là qu'on a commencé à observer ce rétrécissement au cours des 3 dernières années. Nos rendements ont été stimulés ces dernières années par ce rétrécissement des dispersions. Mais aujourd'hui, la dispersion se situe encore à peu près au même niveau qu'en 2019. Et c'était encore élevé à cette époque, puisqu'elle avait augmenté durant la décennie précédente.
Eh bien, c'est génial et très utile. Maintenant, on va pouvoir passer au Japon, mais tout en réfléchissant un peu à cette évolution extraordinaire. En 1987, vous avez écrit un article dans Inside Japan. Et je me demandais, pour ceux qui nous écoutent, et on peut dire que beaucoup n'ont pas la même densité d'expérience avec le Japon que vous deux, en quoi le Japon d'aujourd'hui est-il différent ?
Je pense que c'est très différent à bien des égards. Et bien sûr, parmi tous ces éléments, on retrouve le fait que le Japon, en tant qu'économie, a été mis à rude épreuve. En gros, on a observé une chute des prix records de 80% sur les maisons et sur les terrains, et le marché boursier a fait de même. Non seulement le marché boursier a connu un déclin très sévère, mais il a également été très long. Ce qui a bien sûr créé une aversion pour les actifs risqués et en particulier pour les actions. Ça a changé les gens, la culture, énormément de choses ont changé. Et pourtant, le Japon garde son identité japonaise d'une manière que l'Occident ne pourra jamais le faire.
Et je vais ajouter ici, parce que Niall Ferguson, l'historien économique qui a été invité sur le podcast Money Maze, a fait un commentaire l'autre jour sur le fait que le Japon n'a jamais été aussi important géopolitiquement, qu'il a une puissance navale et militaire formidable, des alliances importantes avec les États-Unis et qu'il serait crucial dans n'importe quel conflit avec Taïwan. Parlons de l'économie. Et bien que, moi aussi, j'ai été investisseur au Japon depuis que j'ai commencé dans le métier il y a très longtemps, je pense qu'une des choses avec laquelle de nombreux investisseurs luttent est ce paradoxe que le Japon est la plus grande nation créancière du monde, malgré le fait que sa dette sur le PIB soit la plus élevée. Et comment peut-on, peut-être pas réconcilier, mais comment peut-on accorder ces observations extrêmement inhabituelles ?
C'est un point important. Et c'est délicat, car beaucoup de gens disent vraiment que depuis les années 90, ce marché obligataire doit exploser. Et c'est pour ça qu'ils l'appellent le « widowmaker », le faiseur de veuves, parce qu'à chaque fois que quelqu'un a essayé de mettre en place ce commerce, il s'est fait anéantir. La réalité, c'est que le gouvernement, en tout cas le gouvernement japonais, a une grande dette qu'il doit au secteur privé japonais. La dette se trouve donc essentiellement dans le circuit fermé de l'économie japonaise. Comme vous l'avez dit, le Japon est le plus grand pays créancier du monde et affiche des excédents dans la balance des comptes courants depuis le début des années 80. C'est une économie très solide.
Et on parlera des épargnants japonais et de certaines allocations qui étonnent le personnel occidental. Mais pour l'instant, parlons des taux d'intérêt. Le Japon a fait beaucoup de choses inhabituelles. Ce fut le premier pays à avoir la ZERP, la politique de taux d'intérêt zéro, mais ce fut aussi le dernier. Et maintenant, il y a des remous au Japon qui pourraient signifier que nous verrons une, je ne l'appellerai pas une normalisation des taux, mais des taux qui s'éloignent de la limite basse. Particulièrement étant donné que l'inflation atteint environ 3%. Comment peut-on envisager la trajectoire probable de la Banque centrale à partir d'aujourd'hui ?
Je pense que le truc, c'est que les autorités japonaises, y compris la Banque centrale, mais aussi la classe politique dans son ensemble, veulent voir le Japon sortir de la déflation définitivement et ne jamais y retourner. Et si c'est le cas, ils doivent apercevoir une sorte de cycle avec des salaires plus élevés qui entraînent des prix plus élevés. Dans un contexte japonais, cela signifierait quelque chose comme 2%, ce qui est leur objectif actuel. Et s'ils y parvenaient, alors ils bougeraient et augmenteraient probablement un peu leur taux. Mais même en ayant dit cela, je ne vois pas du tout une grande augmentation des taux au programme parce que ils l'ont fait prématurément à plusieurs occasions durant ce siècle et ça s'est avéré être un fiasco à chaque fois. Donc cette fois, ils veulent être absolument certains. Le résultat de tout ça, évidemment, a été que le yen a été inhabituellement faible, étant donné que les niveaux d'inflation au Japon ont été constamment bien plus bas que partout ailleurs.
Marc, je sais que vous voulez faire une observation.
Eh bien, en ce qui concerne les taux d'intérêt, bien que je crois qu'on soit dans une ère de hausse des taux et d'inflation croissante, ça ne suit pas une ligne droite. Je pense qu'on va avoir un certain nombre de flux et de reflux des marchés sur le chemin et qu'on atteindra progressivement des taux plus élevés.
Mais, comme je l'ai dit au début, le yen est essentiellement devenu la monnaie la moins chère du monde occidental, ce qui pose la question. Que pensent les Japonais de tout ça ?
Eh bien, ça dépend à quel Japonais vous parlez. La majeure partie de ma carrière s'est déroulée dans un contexte où le yen était excessivement fort. Et c'est pourquoi tant de personnes veulent partir en vacances au Japon. Parce qu'auparavant, c'était incroyablement cher. Maintenant, c'est vraiment très bon marché. Donc, c'est une façon de voir les choses. Mais bien sûr, en réalité, ce qu'on voit ici, c'est une grande augmentation de la compétitivité. Pour les entreprises japonaises et probablement avec le temps, une relocalisation de la production au Japon, si le yen reste à ce niveau, et plus de substitution aux importations. Au fur et à mesure que les fabricants japonais arriveront et pourront produire des choses à un niveau beaucoup moins cher.
Pour les auditeurs du podcast Money Maze, qui n'ont pas entendu l'interview qu'on a réalisée de Scott Bezan, qui est le directeur des investissements de George Soros, il entre dans les détails, avec une vision très favorable sur la fin de ses indicateurs et de son positionnement. Marc.
Juste pour illustrer à quel point le yen est devenu bon marché, je pourrais mentionner qu'il y a environ 7 ou 8 ans, j'ai acheté une petite maison au Japon pour y séjourner pendant que j'y étais et j'ai payé 45 millions de yens pour une maison qui est à distance de marche de mon bureau, le bureau d'Arcus à Tokyo, dans Shibuya. Donc, à environ 30 à 40 minutes de marche du bureau, 45 millions de yens, ça fait environ 250 000 livres aujourd'hui. Mon fils, qui vit au Japon, a acheté sa maison principale pour un prix similaire. Il avait déjà vécu à Londres et il avait du mal à vivre avec un salaire ordinaire à Londres. Récemment, il a acheté une vieille maison dans un village de potiers juste au nord de Tokyo, à 2 500 000 yens, donc 13 000 livres sterling. Pour une maison avec du terrain, c'est juste une illustration frappante de la façon dont certaines choses sont devenues bon marché au Japon, alors qu'elles faisaient partie d'un marché immobilier excessivement cher lorsque Peter et moi y vivions et y travaillions dans les années 80.
Je veux parler de ces changements structurels et réglementaires. et l'un d'entre eux concerne les allocations des ménages. Et si mes données sont correctes, on a plus de la moitié de la richesse des ménages japonais en liquide. Comment la communauté nationale considère ces actions ? Et je vais d'abord poser la question pour le commerce de détail, puis on se posera sur les institutions.
Eh bien, selon moi, ce qu'on a est similaire à l'expérience que mes parents ont eue dans les années 70 au Royaume-Uni en ce qui concerne les obligations d'État. C'est-à-dire, ne touchez plus jamais à ces trucs de votre vie. Et évidemment, ça s'est révélé faux parce qu'il y a eu une énorme désinflation. C'était extrêmement bien pour les obligations. C'est le traumatisme financier de voir des gens s'appauvrir. Et cette génération ne retournera probablement jamais vers les actions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce cycle, un nouveau cycle depuis plus de 30 ans. Les investisseurs domestiques sont beaucoup plus à l'aise avec le marché boursier. Lorsqu'il y a de la déflation, il ne faut pas avoir trop de liquidités. Et le Japon a connu la déflation de manière intermittente à partir du milieu des années 1990 jusqu'à l'ère Abe, c'est-à-dire à partir de 2013. Donc, la conclusion pour les entreprises et les investisseurs individuels était de garder leur argent. Et c'est devenu très courant pour les gens d'avoir des coffres forts. Ils avaient un coffre fort chez eux. On était dans ce genre de mentalité réticente au risque. Au moins, l'argent liquide, vous le récupérez.
Ouais.
Avec les actions, vous le récupérerez peut-être pas.
Exact. Et ça contraste avec le reste du monde qui apprend plus rapidement. Avoir de l'argent liquide n'est pas judicieux dans un monde où les banques centrales en créent beaucoup plus. Institutionnellement, comment envisage-t-il le rapport risque-rendement des actions ?
Je pense que ça commence à être accepté. Et l'un des grands changements qu'on a eu dans ce secteur a été la création sous Abe du GPIF, qui est le fonds de pension gouvernementale, et ils en ont fait une entité beaucoup plus professionnelle, et ça a toujours été énorme. Mais maintenant, ils ont une allocation d'actifs, un quart en actions japonaises, un quart en actions étrangères, un quart en obligations japonaises et un quart en obligations étrangères. Ils ont un biais contrarien. Si les actions baissent, ils en achètent plus. Si elles montent, ils en vendent un peu.
Exact.
Je pense que tout ça a été une grande source d'inspiration pour le marché des actions et qu'il est aujourd'hui en faveur des actions.
D'accord. Donc, on a ces réformes instituées par le gouvernement pour développer une culture de l'action. Vous avez une industrie dans la gestion d'actifs que le gouvernement veut développer. Mais vous avez eu cette bourse de Tokyo, je vais l'appeler comme elle a été nommée, la campagne de Name and Shame. Pourriez-vous expliquer comment ça marche ?
Oui. En janvier de l'année dernière, il y a un an aujourd'hui, ou à peu près, le TSE a annoncé les résultats d'un document issu d'un comité dans lequel ils ont rapporté qu'ils demanderaient aux entreprises qui avait un rendement des capitaux propres constamment bas et en particulier un faible ratio court valeur comptable, d'expliquer les raisons pour lesquelles ce ratio court valeur comptable était très bas. Et plus important encore, quelles mesures les entreprises prendraient pour remédier à cette situation. Et tout cela avait vraiment pour but d'améliorer l'efficacité du capital. Et ça a eu un effet immédiat sur l'opinion des entreprises. Cependant, à mon avis, c'est la dernière étape d'un processus de mesures similaires qui dure depuis plusieurs décennies, qui ont commencé avec la légalisation des rachats d'actions dans les années 1990, suivi par des ajustements et des évolutions du code de l'entreprise, des changements dans la réglementation des fusions et ainsi de suite. De cette manière, il y a eu une série continuelle de mesures pendant 2 à 3 décennies qui a poussé les entreprises japonaises vers une plus grande efficacité, une plus grande rentabilité et une plus grande efficacité du capital, ce qui a entraîné ces divers changements. Donc plus de dividendes distribués par les entreprises japonaises, plus de rachats d'actions, plus de LBO, de MBO, plus de prise de contrôle et des mesures que les entreprises prennent pour améliorer la valorisation de leurs actions.
Ce serait négligent de ma part de ne pas mentionner un autre investisseur à succès, Warren Buffett, qui s'essaie maintenant au Japon depuis un certain temps. Vous avez quelques similitudes, je pense, en termes de patience et de recherche de valeurs et de mottes, etc. Vous êtes-vous retrouvé à pêcher dans le même étang ?
Eh bien, dans une certaine mesure. Buffett est en avance pour le Japon. En fait, il a pris la peine et il n'était pas obligé d'être très élogieux à propos du Japon en tant que destination d'investissement le printemps dernier. Sa durée préférée pour la détention de parts, c'est « pour toujours et à jamais ». Alors que nous, on les fait circuler. Mais je pense qu'il est arrivé et qu'il a acheté des actions de maisons de commerce. Il était très clair là-dessus. Et il a dit qu'il les avait achetées parce qu'il pensait que les dividendes et le rachat d'actions qui récompensaient les actionnaires représentaient un excellent atout. Et puis, il pensait aussi que ces entreprises avaient un bel avenir.
Alors Marc, vous auriez quelque chose à rajouter à ça ?
On investit depuis longtemps dans les sociétés commerciales japonaises parce que pendant de nombreuses années, elles se négociaient à des prix extrêmement bas parmi les sociétés les moins chères du marché. Et de manière opportuniste, parfois on détenait Mitsubishi, Mitsui, ou à d'autres moments on avait une plus grande exposition à Sumitomo ou Itochu. Toutefois, la performance des sociétés de trading au cours des deux dernières années a été tout à fait phénoménale et, selon certains critères, elles ne se négocient pas à des très bas prix sur le marché et à certains égards, elles se négocient relativement cher par rapport à leur histoire. Donc je pense qu'il y a de bonnes choses à dire, mais de nos jours, on ne les trouve plus si convaincantes.
Peter et Marc, je vais essayer de résumer notre conversation pour les investisseurs potentiels et les autres auditeurs en disant que le Japon n'est pas le Japon d'il y a 25 ans. Il possède un paysage où la culture d'entreprise a évolué et où l'appétit des investisseurs change également. Où il y a des vents structurels contraires qui étaient absents auparavant, tant au niveau gouvernemental que réglementaire, où il y a un potentiel de rapatriement de beaucoup de capital, même si les taux ne passent que de 0 à 1,5%, et ça pourrait créer un yen potentiellement plus fort et un biais dans le portefeuille en termes de ce que l'on pourrait vouloir détenir. Et je suppose qu'on a toujours pensé à l'Allemagne et au Japon comme étant, devrions-nous dire, les pays qui incarnent l'excellence. Donc, j'ai vraiment été frappé par cet extrait. Je vais juste le citer, ça vient d'un article de recherche que je lisais. Il dit « Tel est ce changement dans la culture d'entreprise et un nouvel esprit de dynamisme qui contraste du Japon avec l'Allemagne. En Allemagne, 72% de tous les trains allemands ont au moins 30 minutes de retard. Alors qu'au cumul, le retard quotidien de tous les trains japonais est de 3 minutes et 17 secondes. Sur ce, Marc, Peter, ce fut un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
Merci,
merci
Simon.
Beaucoup.
Tout le contenu du podcast Money Maze est à titre informatif et pour votre usage uniquement et n'est pas destiné à répondre à vos besoins particuliers. En particulier, le contenu ne constitue aucune forme de conseil, recommandation, représentation, approbation ou arrangement et n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions spécifiques en matière d'investissement ou autre. Les invités et les présentateurs peuvent avoir des positions dans certains des investissements cités. La totalité du contenu issu des podcasts, tels que les idées, les opinions, les avis, les prédictions, les pronostics, les commentaires, les suggestions ou le choix des actions, implicites ou explicites, est uniquement destiné à des fins d'information, de divertissement ou d'éducation et ne doit pas être interprété comme une offre ni un conseil en termes d'investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'un produit ou un conseil d'investissement dans des services ou des activités. Les informations ne sont pas destinées à constituer des conseils en matière de droit, de fiscalité, d'investissement ou de tout autre type de conseil. Les particuliers ne doivent pas utiliser les informations dont il est question dans les podcasts comme la base d'une décision d'investissement. Les informations discutées peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Tout investissement contient des risques. Les particuliers doivent procéder à leur propre vérification avant d'investir ou consulter un conseiller financier agréé avant de prendre toute décision d'investissement. La valeur des investissements dans les actifs financiers peut aussi bien baisser qu'augmenter. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi au départ. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Arcus ne traite qu'avec des clients professionnels, tels que définis par la Financial Conduct Authority. Arcus Investment Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.